pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
D'après une synthèse publiée par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, la cocaïne serait le produit illicite le plus consommé en France après le cannabis. Tout en ne concernant qu'une petite partie de la population, lit-on sur le site de cette organisation, le produit a connu une diffusion exponentielle au cours des années 90 et 2000. La part des 18-64 ans ayant expérimenté la cocaïne a été multipliée par 7 en deux décennies. En France, comme on peut s'en douter, la cocaïne concerne surtout les jeunes adultes, en particulier les 26-34 ans. Les milieux sociaux concernés par la diffusion de la cocaïne sont devenus, poursuit cette synthèse, tellement larges et hétérogènes qu'il est difficile aujourd'hui de dresser un portrait type du consommateur. Si on regarde par catégorie socio-professionnelle, on voit pourtant que ce sont, étonnamment, les artisans et les commerçants les plus grands consommateurs, suivis par les ouvriers et les cadres. La catégorie qui aurait, comme on dit, le plus haut niveau d'expérimentation serait la population active au chômage. Pendant longtemps, la consommation est essentiellement dite festive. Elle concerne notamment les adeptes de la musique techno, mais depuis la même seconde moitié des années 90, les usages de la cocaïne se diversifient. On en prend au travail, notamment. Une nouvelle façon de mesurer la consommation est également apparue au début du siècle, qui permet d'en cartographier précisément les usages. C'est l'analyse des eaux d'égout. Le site DocBuzz a publié quelques tendances. Il en ressort notamment que Lille apparaît comme la nouvelle capitale de la consommation de la cocaïne. Ce serait la plus forte consommation de cocaïne jamais retrouvée au niveau d'une ville dans toute l'Europe par des études comparables, d'après ce site toujours. Les autres villes dont la consommation est supérieure à la moyenne nationale sont situées dans le sud de la France. Trois villes dépassent 500 mg par jour pour 1000 habitants et c'est aussi la moyenne de la consommation retrouvée à Paris. L'absence de cocaïne a été constatée uniquement dans deux villes, une petite ville de province, qui ne dit pas son nom donc, et sur l'île de La Réunion. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, une odeur de poudre, deuxième épisode, on se concentre sur la consommation festive, enfin plus ou moins, et c'est une série, bien sûr, d'Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Alors,
et au bout de 15 000
attends, c'est quoi ça,
comme ça. Je vais te dire, tout se passe par le nez. Tout. Par exemple, si je fais 2 heures de yoga en concentrant sur l'air qui passe sur mes narines, j'ai même effet que quand je prends un trait de cocaïne par le nez.
Et c'est quoi l'effet?
Être éveillé, par exemple.
Mais pour le yoga aussi?
Ouais, pour le yoga aussi, ça me réveille. Il me détend.
Attends, si c'est juste pour être réveillé et détendu, on prend pas de lacet, non?
Non, quand je ne veux pas faire 2 heures de yoga, un trait, tu vois, il me donne déjà ce que je mène 2 heures pour acquérir. Je gagne du temps. Donc, il faut faire avec les outils qu'on a à portée de la main. Voilà.
Cette discussion a eu lieu il y a 6 mois. Comme je la trouvais étonnante, j'ai demandé à Linda si elle était d'accord pour que je la diffuse dans mon émission sur la cocaïne. Voici sa réponse. Adila. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je regrette à mort d'avoir fait une blague pareille. Cette banalisation de la cocaïne, ce fut la chose la plus triste de ma vie. J'ai dû sortir de ce cauchemar toute seule, et justement grâce à mon travail, qui n'est pas tout à fait le yoga, mais qui est très proche. Et si tu as la moindre considération, la plus petite que ce soit pour moi, efface ça. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Je n'ai rencontré Linda que dans des fêtes, et pour être honnête, je ne l'ai pas revue depuis le jour de ses paroles fatidiques.
Ça va?
Ça va, toi?
C'est hyper sympa d'être venue me chercher.
Ça me fait faire une petite balade.
Pour comprendre ce qui l'avait amenée à changer d'avis, je suis allée la voir dans le petit village de la Marne où elle s'est installée. Linda est danseuse. Elle ressemble à une elfe.
Je suis danseuse de verdure.
Ce qui m'a toujours fascinée chez elle, c'est que quel que soit le produit qu'elle consomme, elle reste toujours douce et calme.
Je viens du sud-est du Brésil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Je suis arrivée en France en novembre de 2005. Et à ce moment-là, de temps en temps, il m'est arrivé d'être dans une soirée où il y avait de la coke, mais super de temps en temps. Et soudain, après un certain temps, dans tous mes cycles d'amitié, partout où j'allais, la cocaïne, elle était présente.
Pour toi, c'était quoi la cocaïne?
Une drogue dangereuse. Et je l'associais aussi dans mon naïveté, je l'associais à la perte de contrôle de soi-même. Mais ce n'est pas du tout une drogue qui puisse te faire perdre le contrôle, je pense. D'ailleurs, le contraire, c'est une drogue qui te maintient extrêmement éveillé. Donc, ce n'est pas ce contrôle social que tu perds. Plus tard, à long terme, tu vas perdre peut-être le contrôle de ta vie. Le problème, c'est que tu prends les premiers traits et tu te sens allumé très vite, tout de suite, éveillé. Et le problème, c'est que c'est une sensation qui passe très vite. Et très vite, tu as besoin d'un prochain trait, et un prochain trait, et un prochain trait. Et très vite aussi, ton cervelle commence à être un peu embrouillé.
Et c'est quelle durée ça, à peu près?
Ça dépend de ce que tu as mangé avant. Ça dépend de ton état d'esprit. Ça dépend d'avec qui tu parles. En fait, j'ai passé 5 ans avec quelqu'un qui en consommait beaucoup. Cet homme, il était un dealer. Donc au départ, je ne savais, j'ai été amoureuse de l'homme. Le dealer est venu avec les paquets. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Ça a mis quelques temps. Et même lorsque je lui posais la question sincèrement, il me l'a nié. Et moi, comme j'étais folle amoureuse, je préférais le croire. Je fais le choix de le croire. Mais quand j'ai connu cette personne, j'avais déjà une démarche de consommation plutôt importante. Et pendant ces 5 ans, je n'avais pas forcément une consommation quotidienne. J'étais addict, mais disons que j'étais dans un cadre d'addiction plutôt contrôlé. Où ça a foutu le bordel dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à travailler dans la nuit. J'étais barmaid dans une boîte de nuit. Là, tu ne peux pas t'en passer. Ça fait partie du travail. Tu ne tiens pas le coup si tu n'en prends pas. La nuit, elle est façonnée par l'usage des drogues d'une certaine façon. Donc là, quand tu travailles jusqu'à 7 heures du matin, le lendemain, tu dors comme tu peux, tu manges comme tu peux, et très vite, en début de soirée, il faut être debout et fraîche pour faire la soirée suivante. Et c'est à ce moment-là que tu en fais usage.
Il faut savoir que dans le monde de la nuit, il y a ceux qui sont là pour s'amuser et ceux qui sont là pour bosser. Ils sont difficiles à distinguer parce que la nuit, tu es censé t'amuser même quand tu travailles. Et puis les gens qui travaillent la nuit sortent aussi la nuit. Les DJ vont écouter d'autres DJ, les barmen vont boire des coups dans d'autres bars. Bref, tout ce petit monde est très mélangé. Pourtant, il existe une différence économique et sociale implacable entre ceux qui ont une vie du jour et un lendemain à préserver et ceux qui n'en ont pas.
Je me coupais de la réalité du monde de la journée. Et même le peu d'activité que j'avais dans la journée, je le faisais avec beaucoup de fatigue, avec très peu d'intérêt. J'ai commencé à avoir moins d'intérêt par le monde, en fait. Il arrive quelque chose, que le monde passe à être intéressant seulement quand tu as de la cocaïne au nez. C'est une drogue qui rend les gens extrêmement arrogants et agressifs. Non, donc, j'ai passé par là, j'ai passé par l'arrogance, j'ai passé par l'agressivité, par l'intolérance même. C'est une drogue qui te rend un peu stupide. comme tu as toujours dans le désir de consommer, tu bosses sans intérêt vraiment sur le travail, juste parce que tu sais que le travail va t'apporter d'argent pour en acheter plus. Tu penses que non, mais tu deviens un mouton obéissant. Moi, je viens d'un pays comme ça, tout le monde, il y a la cocaïne dans les favelas, les cannabis partout, mais c'est quelque chose qui calme les gens. Du coup, les gens, c'est Dieu heureux, c'est dit que tout va bien parce qu'ils font la fête, mais ils sont en train de subir les plus grandes merdes du monde et ne réagissent pas. T'as des patrons qui c'est des imbéciles complètes. Et tu subis ça parce que tu fais la thune pour acheter ce qui va te permettre d'accepter de subir ton travail de merde. En fait, à partir d'un certain temps, j'ai vu que je consommais beaucoup. Et j'ai commencé à me dire que c'était pas bon. Que c'était une extravagance. Mais même en me rendant compte de l'extravagance, c'était hyper dur de m'en sortir. Et je faisais de temps en temps des crises où je vomissais beaucoup, je ne pouvais rien manger. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai une énorme crise et pendant 4 jours, je ne faisais que vomir. Et je ne mangeais plus rien. Tout me faisait vomir. J'ai été prise aux urgences tout de suite. J'ai fait des examens. J'avais des ulcères partout dans l'estomac. Et une fois les ulcères traités, le médecin dit « Mais madame, dans votre tête, ça ne va pas. On vous recommande un passage pour un hôpital psychiatrique et pour un bon sevrage et pour mettre votre tête en ordre. » Et j'étais tout de suite d'accord. On m'a envoyé à un hôpital, une clinique psychiatrique à Épinay-sur-Seine. Et là, je voyais un psy tous les jours, le matin. Et j'étais médicalisée. C'était des médicaments qui m'aidaient dans mon sevrage. Il y avait une salle pour faire de la peinture, nanana. Et là, j'ai trouvé un fer à repasser. J'ai repassé mon linge tous les jours. J'avais un plaisir énorme à faire ça. Mais en fait, ça m'a renvoyé aux activités de mon enfance. J'étais enlevée pour être une femme au foyer. Donc, toutes ce sont des tâches ménagères, je les ai apprises très, très tôt dans la vie. Et passer de linge, faire à manger, balayer une maison, tout cela, c'est tout mon univers et mon enfance. Et faire de repassage à la clinique, ça m'a redonné cet endroit. Je faisais du yoga aussi tous les jours. Donc ça m'a rapproché de mon travail, ou au moins ça m'a rapproché d'un travail physique. C'est resté 5 ou 6 semaines. C'était un temps de solitude. J'avais quelqu'un qui venait me voir, que c'était cet homme. Personne d'autre, aucun des amis, personne n'est venu me voir.
Et comment ça s'est passé le retour à la réalité?
Et dur, parce que quand tu arrives à faire un usage régulier, ça veut dire aussi que tu vis qu'avec des gens qui consomment aussi. Donc, arrêter la consommation, c'est aussi s'éloigner des gens que tu appelles tes amis. Je ne sais pas si j'aurais pu vraiment m'arrêter si je n'avais pas fait ce changement brutal de sortie de Paris, m'installer autre part. Donc, je suis venue ici, dans ce village. Et ça, c'était très intéressant. C'est important d'être ici parce que à Paris, en étant à Paris, quand j'ai changé mes habitudes, c'était solitaire aussi. Et ici, en me retrouvant toujours seule, j'ai fini pour avoir des idées, des choses, des projets, des choses que je veux faire dans la ville. Paris ne te laisse pas la place. Mmh. C'est une ville où il y a tant de monde, où il y a tant de gens, qui fait tant de choses, où tout le monde sait déjà tout, qu'il n'y a pas de place. Alors qu'ici, où je me trouve, il y a tout à faire. Tout est à faire. Il n'y a rien. Mmh. Absolument rien. Et une autre chose drôle qui m'arrive, c'est que justement cet endroit-là où il n'y a rien, ça ressemble énormément au contexte duquel je suis sortie il y a quelques années. Le contexte qui sépare la France de 2000 kilomètres d'où je viens. Donc je me suis dit que si j'ai appris tant de choses, si j'ai fait 10 000 kilomètres, et je me trouve encore dans un contexte si semblable, c'est que peut-être que j'ai une dette là-dessus et qu'il me faut faire quelque chose. C'est pas que je regrette cette expérience de ce passage par la cocaïne, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai appris énormément sur moi, sur les gens, sur la vie, sur la valeur du travail, sur l'engagement. Peut-être que les gens plus intelligents peuvent apprendre tout cela sans passer pour tant de douleurs. Malheureusement, je pense que je ne suis pas très intelligente que ça. Il m'a fallu quelques doses de douleurs pour comprendre certaines choses.
Je ne sais pas si c'est à cause de la douleur ou bien grâce à l'intelligence, mais à la fin de notre conversation, Linda a changé d'avis et accepté que j'utilise les mots qui appartenaient à son passé.
Quand tu m'as proposé l'usage de l'audio, j'ai eu peur de jouer la banalisation. Je trouve important se droguer dans la vie. C'est que c'est moche, c'est la banalisation de ces gestes. C'est ça. Peut-être le chapitre avec la cocaïne, il est fini, mais peut-être pas le chapitre avec les drogues. J'ai besoin d'interroger ma conscience souvent. Et je pense qu'il y a des drogues plus intéressantes pour ça.
Culture, les pieds sur terre.
Je connais Pauline depuis plus de 10 ans. C'était une figure de la nuit et de la fête, toujours en avance d'une idée ou d'un look. Elle m'impressionnait tellement que j'osais à peine lui adresser la parole. Depuis, on est devenues copines et la fascination a laissé place à l'affection. Si je suis allée la voir, c'est parce qu'elle a une grande expérience dans toutes sortes de drogues.
Toxicomane. Polytoxicomane ?
Je me suis dit qu'elle serait la personne la plus à même de me dire pourquoi la cocaïne a un tel succès.
C'est quelqu'un qui, quand le matin, avant d'aller à une fête, se dit ce soir, je ne vais pas en prendre, change d'avis à 21h, dès qu'il voit le premier trait lui passer sous le nez. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais en même temps, je ne suis pas du tout dans le déni par rapport à ça. Le cerveau continue à dire, on va faire la fête, et puis la réalité, c'est que... On va juste prendre des drogues parce qu'on est dedans, quoi.
Tu te souviens de ta première expérience de drogue ?
Ouais, je m'en souviens parfaitement. C'était une rave party, j'avais 19 ans. C'était au début des années 90, c'était des grosses raves où les gens étaient costumés, il y avait plusieurs ambiances. Et j'avais décidé que je voulais goûter l'ecstasy et le LSD. Et voilà, j'ai fait les deux dans la même soirée. La première prise d'ecstasy, c'était très très agréable. C'était très fort, chaud, amour, bonheur. On n'a jamais, enfin, on veut que ça dure tout le temps. Et le LSD, bah le LSD c'est un peu plus compliqué. Mais j'étais quand même très curieuse et après il y a plein de gens qui lors des premières prises de drogue, selon les produits, disent, en gros, selon ce que ça te fait, tu sais si t'es en danger, en tout cas si tu vas y passer un peu de temps avec ce produit ou si tu vas laisser tomber. Moi, je me suis dit que ça allait m'occuper un petit peu de temps. J'ai acheté des oxydes de synthèse sur Internet, je m'y suis intéressée, je regardais les nouveaux produits. Quand je partais à l'étranger, j'essayais les choses à disposition localement. Enfin, je pense que j'ai pas chômé, quoi.
Et tu te souviens de ta première prise de cocaïne ?
Ouais, plus ou moins chez un copain, quelqu'un qu'on avait. Ça m'a fait comme à tous les gens qui prennent de la cocaïne, c'est-à-dire je me suis dit, j'ai pas trop senti la différence avec l'état normal, parce que ça fait pas partir comme de l'exta ou du LSD ou de l'héroïne.
Dans toutes les drogues que t'as consommées, c'est quoi celle que tu préfères ?
Ben, la plus agréable, c'est la MDMA, et la plus excitante, enfin fascinante, c'est le LSD.
Et celle que tu consommes le plus fréquemment ?
C'est la cocaïne. C'est malheureux, mais c'est vrai. C'est la drogue qui est la moins impliquante, enfin engageante, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, c'est celle qui peut se prendre, oui, en effet, dans n'importe quel bar. Ça ne change pas fondamentalement ta perception du monde qui t'entoure, même si en fait ça le fait, mais dans des proportions qui sont moins radicales que l'ecstasy, le LSD. Je pense que c'est pour ça que ça s'est démocratisé à ce point et que tout le monde en prend. C'est-à-dire que c'est très facile de continuer à faire ce qu'on est en train de faire en ayant l'impression que ça ne change pas fondamentalement les choses et que juste c'est plus excitant, plus amusant, on se sent mieux, on est plus fort, on est plus drôle, on parle plus fort, on parle plus. Dès que je suis saoul, j'ai envie de prendre de la cocaïne. Et donc dès que je suis saoul, j'appelle le dealer et je m'en fais livrer. Et alors que dans la journée, je me suis dit, ce soir c'est niette. Le problème c'est que je tiens plus très bien l'alcool et donc c'est juste pour revenir à un niveau qui fait que je vais dessouler suffisamment pour pouvoir continuer à être avec les gens avec lesquels je suis et à m'amuser. Et en gros, à un moment, ça devient ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer à m'amuser. Moi, j'ai effacé tous les numéros de mon téléphone parce que j'essaie de ne plus avoir ce genre de réflexe systématique. Donc, je me retrouve ivre à envoyer des SMS honteux à des gens que je connais en leur demandant « s'il te plaît, t'as pas un numéro ?» Bon, voilà, donc ça m'est arrivé avant-hier, voilà, j'avais plus de numéro, donc j'ai envoyé deux SMS à des copains. Et puis après, j'ai envoyé un SMS au type. « Salut, je suis à tel endroit, est-ce que tu veux passer ?» Et puis la personne répond, puis ensuite je demande dans combien de temps ça va être possible. Il donne ses conditions. Mais là, par exemple, il fallait prendre 2 grammes minimum, ce que je voulais pas faire, évidemment, quand même, faut pas exagérer. Et puis après, la personne arrive, elle me dit je suis là, donc soit c'est une voiture, je monte dans la voiture et puis on fait un tout petit tour de pâté de maison et puis j'achète ce dont j'ai besoin. Plap, plap, ça se fait très rapidement. En général, on n'a pas trop le temps de discuter, mais ils ont moins de 30 ans, des quartiers. Ils sont très commerciaux, je dirais, ils sont très, très mignons.
On dirait bien que les dealers d'aujourd'hui n'ont pas séché l'option force de vente. En tous les cas, ils n'hésitent pas à relancer leur clientèle par SMS. Des SMS dont le vocabulaire et l'orthographe sont cryptés. Ils écrivent par exemple « Salut, c'est Dani, Corinne est de retour avec de la frappe, un cadeau. » Ce qui veut dire « J'ai à nouveau de la cocaïne, elle est bonne et j'offre un gramme en cadeau. » Ou bien plus élaboré « Offre spéciale Corona mercredi pour 2 acheter, un demi offert. » Pour 3 achetés, le 4e offert. Ce qui veut dire offre spéciale du mercredi sur la cocaïne, pour 2 grammes achetés, 1 gramme offert, et pour 3 grammes achetés, le 4e est gratuit.
Comment t'es assuré qu'on va pas te vendre de la farine ?
T'es pas assuré, après, c'est l'absurdité du truc, des fois t'as tellement envie de prendre de la cocaïne que t'es prêt à acheter un truc, même si tu sais que les 3 dernières fois c'était vraiment pas bon, tu rappelles quand même. Voilà, ça c'est vraiment là. C'est aussi ça qui fait que tu te dis que t'es addict, quoi. Enfin, parce que tu t'es prêt à dépenser quand même vraiment beaucoup d'argent, 70 euros pour un gramme, pour un produit qui est vraiment très mauvais, quoi. Alors après, dans notre entourage, on a quelqu'un dont le produit est vraiment très bon, mais il se déplace pas. Donc voilà, il y a un moment... Par exemple, comme moi, j'en ai plus envie quand je suis ivre. À l'endroit où je suis précisément, il faut que ce soit là que ça se passe. Je fais appel à ces types. Mais aussi parce que je me dis que si je prévois, c'est encore plus difficile de pas le... Enfin, je le fais, quoi. Je le fais pour de vrai.
Quelle quantité tu consommes quand tu consommes ?
Disons un gramme, une fois par semaine. C'est pas tant que ça.
Que ce soit pour bosser, pour éviter de dormir ou pour faire la fête, la cocaïne pose la même question. Ou plutôt, c'est une question qui se pose à mes amis. C'est-à-dire des gens qui font attention à manger bio et local et qui ne veulent pas porter des vêtements fabriqués par des enfants. Or, on peut difficilement imaginer moins bio, éthique et local que la cocaïne.
Je crois être quand même quelqu'un qui a une conscience politique et elle s'arrête là où la drogue prend le pas, malheureusement. C'est la toxicomanie, enfin, je veux dire, à un moment, tout ton système intellectuel s'effrite parce que tu as besoin d'un produit et que ça ne t'intéresse plus du tout de savoir dans quelles conditions il est fabriqué, qui ça tue, qui ça met en danger, qui ça implique, voilà.
Franchement, en allant voir des consommateurs de cocaïne, je pensais que j'allais entendre des choses drôles, joyeuses et loufoques. Ce qui arrive souvent quand les gens prennent de la cocaïne en soirée. Mais il semblerait que quand l'effet de la drogue s'estompe, il ne reste que de l'amertume. Est-ce que c'est pareil pour tous les stupéfiants ? Dans le prochain épisode d'Une odeur de poudre, je chercherai à savoir s'il existe des drogués heureux. Lay down your head and show me if you like it. Lend me your ears and read me like a book. Conversation, it strikes me. No need for words, it's all understood. Lay down your head and show me if you like it. Wonder if there is something we did wrong. Nothing can stop me.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Une odeur de poudre, deuxième épisode, la consommation plus ou moins festive. Un reportage d'Adila Benedjaizou réalisé par Delphine Lemaire. Merci à Linda et à Pauline. Sandrine Chiapron, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons un compte Twitter et une page Facebook qui attendent vos réactions avec impatience.